Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Des lieux qui font rêver. Chênes verts, arbousiers, genévriers, buis, romarin, genêt, thym, pinède, toutes ces senteurs méditerranéennes. Et perchés sur les collines, de beaux villages aux toits de tuiles romaines, c'est le Minervois. Mais aussi beaux soient-ils, rares sont les lieux épargnés par les drames, qu'ils soient dus aux hommes ou à la nature elle-même. Voici un village, Caunes, et sa population laborieuse réunie autour d'une abbaye qui vont connaître tour à tour gloire, richesse et malheur. Est-ce une pierre maléfique que cette roche rouge-vermeille qui attire les convoitises? Nous le découvrons dans ce roman passionnant intitulé « Rouge marbre » paru aux éditions du Cabardès et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur Michel Tesser. Michel Tesser, bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors, on vous écoute.
Je m'appelle Marie. Les gens m'ont surnommée la Culubro, à cause de mon petit haut. Comme il se faufile partout, ils l'ont baptisée Culubrette, autrement dit Culevro, dans notre langue. J'habite près du sentier qui descend vers le bourg. Vu d'ici, c'est juste un gros village, doré comme une miche au sortir du fournil. Les maisons entourent l'abbaye. On croirait voir un berger conduisant son troupeau, sauf qu'en bas, ce sont des loups. Patelin par devant, mal parlant par derrière, et que leur chef, c'est l'abbé. Il ne sort pas souvent. Quand il sort, c'est en grand équipage, toujours bien escorté. Avec ça, un air si benoît qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Normal, quand on porte ton sur-échapelet. Moi, je dis que sous la robe de bure, il doit y avoir du bel habit. Batiste, laine fine, peut-être même de la soie. Parce que, tout bénédictin qu'il est, l'abbé est plus souvent à Rome qu'à chanter l'ode et matines au couvent. Il revient à Pâques, avec les cloches, pour bénir les moines qui vivent encore là. Ce jour-là, le carillon sonne, mais la résurrection, c'est entre eux qu'il l'a faite. Ceux du bourg vont à l'église paroissiale. Nous, les gens des collines, on préfère aller à la chapelle du Cross. On l'aime bien, Notre-Dame. Elle nous a toujours protégés. Elle éloigne le mal, des vignes la grêle, des troupeaux la maladie du charbon, des nourrissons le gros ventre, des filles les routiers, même si moi je ne leur ai pas échappé. Mon petit, il est muet. C'est ce qu'ils m'ont fait qui lui a coupé la langue. J'aurais tellement voulu leur couper autre chose, à tous ces porcs qui me sont tombés dessus. Je ne sais pas duquel est venue la graine, mais c'est dans mon ventre qu'elle a germé. Alors, bâtard ou pas, j'ai fini par l'aimer. Culubrette, Culubrette, je lui chante. Mon lézard, ma colombe, ma couleuvrette jolie. On a beau dire, je suis sûre qu'il m'entend. Je le vois dans ses yeux. Après ce qui m'est arrivé, je chasse tous ceux qui s'approchent. Sauf l'ermite, un saint homme qui garde la chapelle et la source du Cross. On dit que son eau fait des miracles. C'est pour ça que j'en donne à boire à mon petit haut. Jusque-là, tout va bien. Je me débrouille avec mes chèvres et aussi la laine qu'on me donne à carder. C'est après que les choses seront difficiles, quand Culubrette aura grandi. Qu'à cela ne tienne. Si quelqu'un veut lui faire du mal, je saurai le défendre. Pour lui, je suis prête à tout. Je me battrai bec et ongles, quitte à en crever.
Voici Marie, dont vous venez de lire un texte, parce que Marie écrit, on parlera de la construction de votre roman d'ailleurs, et à travers l'histoire de cette jeune femme, vous abordez plusieurs thèmes, Michel Tesser, celui d'un village dans le Minervois au XVIIe siècle, sa population pauvre et laborieuse, et puis cet enrichissement inattendu que va leur apporter la nature, et cela grâce à un Italien. Alors, un gros travail de documentation vous avez fait, parce que, en fait, vous décrivez la population à travers des personnages fictifs, mais ce que vous décrivez, c'est la vie d'un village au XVIIe siècle, et c'est également une narration historique, en définitive. Vous avez travaillé pour une documentation, certainement.
Alors effectivement, j'ai travaillé pendant, disons, 2 ans à me nourrir de documents, de témoignages de personnes qui avaient déjà travaillé sur, sur ce coin du Minervois, qui est très riche en histoire. Mmh. Et lorsque j'ai amassé, une fois que j'ai eu amassé tous ces documents, il a fallu les digérer, les faire siens, comme... chaque fois que j'écris un roman, puisque souvent mes romans s'inscrivent dans l'histoire, donc il a fallu les intégrer et puis en ressortir l'essentiel, la signature peut-être de ce moment de l'histoire et de ce lieu.
Vous en êtes imprégnée.
Voilà, je m'en suis imprégnée jusqu'à ce que l'écriture devienne naturelle et s'impose dans son évidence.
Voilà, alors... évidemment, on parle d'histoire, il faut resituer. Nous sommes en 1630. Alors, qui, à ce moment-là, il y a Paris, le pouvoir central. Qui est-ce ? Louis XIII ?
Alors, c'est le pouvoir central. Nous sommes au tout début du, oui. du règne de Louis XIII. Le contexte, c'est la fin des guerres de religion. Le pouvoir central, le pouvoir royal veut s'affirmer.
Et pour l'instant, il est faible.
Pour l'instant, il est faible. Il y a eu en plus, entre Louis XIII, son frère, sa mère, Anne d'Autriche, il y a des batailles encore terribles, il y a des oppositions politiques. Richelieu tente, lui, d'apaiser tout ça et d'instaurer vraiment un pouvoir central fort.
Oui, merci de m'avoir fait revisiter cette histoire, parce que Richelieu, finalement, c'est un des fondateurs de notre société moderne.
Absolument. Ouais. Alors, tout ça, je l'ai redécouvert moi-même, puisque mes cours d'histoire étaient lointains, et en fait, ça a été l'opportunité pour revisiter l'histoire de France, voilà, que j'avais un peu oubliée, ma foi. Et il y a donc le pouvoir central et puis les provinces qui sont pratiquement autonomes, qui ont une identité très forte, qui ont leur administration.
Par exemple là, à Cône, puisque nous sommes dans ce village, c'est Cône-Minervois maintenant. Hein.
Oui.
Alors à Cône, qui a le pouvoir ?
Alors, qui a le pouvoir ? Il y a certes des hommes de loi qui sont nationaux, entre guillemets, mais il y a surtout l'abbé de l'abbaye de Cône, Minervois, puisque le village s'est constitué autour de cette abbaye au Moyen-Âge, pendant le Haut Moyen-Âge, et, si bien que l'abbé, représente à la fois le pouvoir spirituel, mais aussi le pouvoir temporel. Et il est seigneur, il est à la fois abbé et
Jean
seigneur.
D'Alibret.
Il s'agit de Jean d'Alibert. Voilà.
Voilà. Et il a d'ailleurs 2 frères qui ont également certainement un rôle. Alors, comment l'avez-vous décrit, ce Jean d'Alibert ?
Alors, Jean d'Alibert, effectivement, est issu d'une famille de notables, de bourgeois de Languedocien, qui sont des marchands, essentiellement, ce sont des marchands. C'est un homme cultivé, puisqu'il a soutenu une thèse à l'université de Toulouse, une thèse en droit canon.
Donc, il a existé, je rappelle ça à nos auditeurs.
Hein. Absolument, oui. Absolument. Disons que les personnages pivots de mon roman sont des personnages qui ont existé, oui. Dont la présence et l'action est attestée dans les documents, à la fois aux archives du département de l'Aude et dans les documents de la ville de Cône elle-même. Alors, donc, cet abbé Jean d'Alibert est un érudit. Il est passé par l'abbaye de... c'est l'abbaye de... Ce n'est pas la Grâce, c'est une autre abbaye juste à côté.
La Grâce ?
Non, une autre abbaye. Je vais retrouver le nom. L'endroit, justement, où on a inventé la blanquette de Limoux, juste à côté de Limoux. Voilà, le nom m'échappe brusquement. Mais il était infirmier, c'est-à-dire médecin, dans cette abbaye. Et ensuite, il a demandé sa mutation à Cône et par, je pense, il a un petit peu intrigué. Et puis la position de sa famille a fait qu'il est revenu dans son fief familial et il est devenu seigneur et abbé de Cône.
Alors, il n'est pas très sympathique, en fait. Il y a chez lui de l'orgueil, de la vanité même. En fait, il va très souvent, d'après le dire de Marie, il va plus souvent à Rome, au Vatican, qu'à Cône. Et on sent chez lui une sorte d'orgueil dépité.
Alors, il y a effectivement une énorme différence, un fossé entre les érudits du temps, les gens de pouvoir et le petit peuple. D'où le ressenti de Marie, qui, elle, fait partie du petit peuple. Il, effectivement, comme tous les religieux d'un certain rang, il va très souvent, il va aussi souvent que le permettent les voyages de l'époque, il va à Rome. La basilique Saint-Pierre est en pleine construction,
oui,
on
c'est
est
vrai.
En plein aménagement, oui. Mais c'est le lieu vraiment central du pouvoir spirituel, du pouvoir de l'Église. Donc il y a chez tous ces hommes d'Église à ce moment-là un souci de carrière. Il y a à la fois le souci spirituel, si on peut dire, mais souvent ce sont des gens qui font leur carrière dans l'Église, comme d'autres font leur carrière dans l'armée ou dans le commerce ou dans la politique. Voilà. Donc, c'est vrai que stratégiquement, il est souvent à Rome. Et puis, il y a eu... nous sommes en plein dans la suite des guerres de religion. Donc, il y a la contre-réforme, d'où des réunions constantes à Rome, puisqu'il y a eu le Grand Concile de Trente. Donc, à la suite de tout ça, il y a des réunions, d'autres, on dirait aujourd'hui des séminaires, pour savoir comment reprendre les rênes de la religion institutionnelle.
Oui, parce que les protestants sont assez nombreux dans cette région-là, nous, autour.
C'est, vraiment, les protestants sont très nombreux. On a l'impression que cette région du Languedoc, d'ailleurs, proteste, plus exactement, que la religion est une manière de protester contre toute tentative d'intrusion. Alors, on l'a vu, du pouvoir central ou du pouvoir du Nord.
Il y a un côté politique, donc.
Voilà, on l'a vu avec la croisade des Albigeois, avec l'hérésie dite cathare, et on l'a vu ensuite avec les protestants, qui sont très, très... très puissants en Languedoc et qui ont aussi pignon sur rue. Hein. On trouve des financiers, des banquiers, des grands commerçants. Voilà. Donc, vraiment, on a l'impression que cette opposition huguenote, comme on dit à l'époque, est également une opposition politique.
Oui, alors, l'abbaye dont Jean d'Albibert est l'abbé, cette abbaye héberge ou reçoit 7 moines, tous ont une action, justement, sont plus proches, eux, de la population. Je pense au frère Albin, qui est apothicaire, infirmier, il y a l'économe, il y a le secrétaire, tout cela, donc on les rencontre au fil de votre ouvrage. Mais le problème de Jean d'Alibert, c'est que revenant de Rome, où il y a des choses magnifiques, Rome est déjà une ville riche, il est confondu vraiment par la vétusté de son abbaye, de ce village, de son église, et faute de moyens. Hein, faute voilà. De moyens. Bon, alors, il veut enrichir son abbaye, mais comment ? Alors, est-ce qu'il a une idée ?
Alors, au départ, il n'avait pas spécialement d'idée et il se désespère de l'état de l'abbaye. Il y a peu de moines, les vocations apparemment sont minimes du fait de la vétusté, justement de l'inconfort des lieux. Ça n'est plus du tout attractif. Il veut redonner, dans le sillage justement du Concile de Trente, il veut redonner son lustre à l'abbaye et à la religion catholique. Alors, d'où chez lui une double motivation. Il est à la fois ambitieux de façon personnelle, à titre personnel, et ambitieux aussi pour son abbaye, pour l'abbaye qu'il dirige. Il n'a pas spécialement d'idées, il n'a pas trouvé le déclencheur de cette richesse possible. Et puis, un jour, à Rome, il rencontre un sculpteur, un marbrier italien qui est là sur le chantier, sûrement de la basilique, et il se rappelle brusquement que on lui avait parlé, ou il a entrevu des une pierre qu'on appelle à l'époque la pierre jaspe ou la pierre jaspé, c'est-à-dire le marbre. Et Dieu sait si le marbre est une richesse, Dieu sait si on en a besoin pour l'architecture et la sculpture d'apparat. On en a besoin pour la construction de la basilique. Et fort de cette supposition de présence de marbre sur ces terres, puisque encore une fois il est seigneur de ce coin de terre, il se dit que ça va être peut-être ce qui va sauver l'abbaye et lui rendre tout son lustre.
Alors Michel Cessert, on va vraiment parler de cette découverte, mais avant j'aimerais qu'on dise un petit mot quand même de ce lieu qui est magnifique. Quand on le connaît, on ne peut que l'aimer. Donc Cosne en Minervois, c'est au flanc de la Montagne Noire. C'est un village maintenant qui attire beaucoup de tourisme, j'ai l'impression. Et il y a une rivière. Pourquoi s'appelle-t-elle l'Argent Double ?
Alors, probablement parce qu'on peut-être a-t-on trouvé des pépites d'argent, comme dans...
Les Pyrénées aussi.
Voilà, Pyrénées, comme dans les Pyrénées, on trouve des pépites d'or dans l'Ariège, hein, l'Auriège. Donc, probablement, c'est peut-être cette étymologie-là, je n'en suis pas certaine. C'est une possibilité, d'autant que, effectivement, comme vous l'avez dit, on est sur le piémont de la Montagne Noire, on est dans un massif rocheux très particulier, très riche en minéraux, du fait, lorsqu'il y a eu le basculement des Pyrénées, enfin les Pyrénées ont poussé, il y a eu des fractures dans la roche, et effectivement, il y a eu des phénomènes qui se sont produits et qui ont fait que c'est un terrain riche du point de vue des minéraux. Ce dont nous sommes à Cosne Minervois, sur ce piémont de la Montagne Noire. Et je dois dire qu'avant l'aspect historique, c'est avant tout la beauté des lieux, leur âpreté, la beauté de l'architecture, de cette architecture romane, hein, qui est celle de l'abbaye. Comme vous l'avez dit au début également, toutes ces couleurs, cet ocre des constructions, des bâtisses, ces collines sauvages, ces collines avec une végétation méditerranéenne qui m'ont ébloui. Et ensuite, j'ai découvert les carrières qui font des sortes de saignées écarlates dans ce paysage.
Oui, c'est vrai qu'on évoque le pourtour méditerranéen avec cette végétation qui est très méditerranéenne, finalement. Les habitants, visiblement, ne sont pas très riches, mais ils vivent. Ils vivent, ils se suffisent à eux-mêmes. De quoi vivent-ils, en fait, dans ce village ?
Alors, c'est une économie de type méditerranéen, hein, c'est-à-dire culture de la vigne, de l'olivier, du blé, ce qui donne lieu à des activités de transformation, puisqu'on fait de l'huile, d'olive. Il y a également de lait, on fait du vin. Il y a également de l'élevage de brebis, de chèvres, avec lesquels on fait bien évidemment des fromages, mais surtout de la laine. On produit de la laine et les moulins installés sur l'Argent Double, donc qui fonctionnent à l'énergie hydraulique, hein, ces moulins sont des moulins qui permettent la fabrication d'étoffes de laine, laine, de draps de laine, qui sont très prisés, d'où la richesse d'une partie des habitants qui vont faire les notables.
Oui, malgré tout. Voilà. Oui, c'est vrai que je pense à Marie, parce que Marie, que c'est un personnage que vous avez créé. Pourquoi avez-vous créé Marie et Colobré, son enfant, je ne dirais pas, on ne va pas dévoiler une partie de son histoire. Pourquoi l'avez-vous créé ?
Alors, Marie, ce personnage de Marie est arrivé comme une évidence. Pour moi, elle représentait un petit peu toutes les femmes, ou du moins la femme type du peuple, hein, de cette époque. C'est-à-dire une femme qui, si elle n'avait pas trouvé...
Elle était bergère.
Voilà. Si elle n'avait pas trouvé... Elle était bergère. On trouve dans les contes de Perrault, il y a toujours le personnage de la bergère, c'est-à-dire quelqu'un de pauvre.
D'isolé.
On dirait aujourd'hui sans qualification. Et souvent, lorsque les parents mouraient Eh bien, il n'y avait guère d'autre salut que de trouver vite un mari. Et si on ne trouvait pas de mari, ben, on se retrouvait sans protection aucune et donc
livré,
à la merci de tous les prédateurs possibles.
Oui.
C'est ce qui est arrivé à Marie. Donc, personnage dans une position très précaire, dans une position de fragilité, et en même temps, ce qui va lui donner sa force et l'énergie de résister.
On pense un peu à Manon des Sources.
Oui, en fait. Tout à fait, vous avez raison.
Oui. Donc, elle a un enfant qui est handicapé, la condition des enfants handicapés également à l'époque, et on verra là aussi, c'est une parenthèse intéressante, où on voit un moine qui va prendre en charge l'éducation de cet enfant d'une certaine manière, puisque cet enfant est muet. En fait, il y a d'autres personnages aussi qui gravitent. On voit aussi les liens qu'il y a. Alors évidemment, les conditions des femmes, pas du tout faciles, hein, il n'y avait pas d'aide, mais j'imagine que partout dans le monde, il y a des femmes dans ces conditions-là. Jeanne, qui est très âgée, qui est sage, mais qui est pauvre également. Il y a Germain, le berger, qui voit tout, qui est superstitieux, oui, je voulais vous dire. Ce qui frappe aussi, c'est de voir combien à cette époque, mais là aussi ça peut perdurer, combien à cette époque les gens sont ignorants et superstitieux.
Oui, il y a, l'éducation est pratiquement inexistante dans ces couches populaires. Le personnage auquel vous faites allusion, Germain, est un petit peu, on dirait aujourd'hui, le simplet du village. On lui a trouvé un emploi, il conduit le troupeau, les troupeaux, il s'occupe des troupeaux de brebis du monastère. Et il fait le lien, c'est un petit peu un bon sorcier, il fait le lien entre la nature, le village, les moines. Voilà, il a cette espèce de...
L'innocence.
Il a l'innocence,
oui.
Tout à fait. C'est l'innocent dans tous les sens du terme. Et cette innocence lui permet d'avoir accès à certaines forces, à certaines
qui
murmurent.
Et il voit tout.
Et il voit tout. Et il voit
Alors,
tout.
Un personnage plus énigmatique encore, c'est l'ermite. L'ermite qui garde la chapelle du Croc. Alors, est-ce que c'est un saint homme ou bien est-ce quelqu'un d'ancré dans son immobilisme, je dirais? Est-ce que c'est quelqu'un sort de Nostradamus, puisqu'à un moment donné, c'est le nom qu'on lui donne? Est-ce qu'il a un sens prémonitoire? Il est à la fois inquiétant et inquiétant, issu de la... s'appuyant sur la population superstitieuse, justement.
Alors, cet ermite est une figure qui tire sa puissance, justement, de son ambiguïté, de son mutisme, de sa solitude. C'est un personnage à la fois inquiétant et que l'on considère également comme un saint homme, puisque les anachorètes, que ce soit en Inde, que ce soit dans l'Occident médiéval, sont considérés malgré tout comme des gens qui font le sacrifice de la vie mondaine pour atteindre, pour se mettre en accord avec la vie spirituelle. Donc ce personnage au début est un personnage positif, reconnu comme un presque saint, on lui apporte des...
Surtout qu'il s'occupe d'une chapelle.
Il s'occupe de la chapelle, il est le gardien officiel de la chapelle qui appartient également au monastère. Donc c'est une présence tolérée, une espèce de coutume, de fête. Il n'est pas nommé par l'abbé, c'est une coutume de fête, il est autoproclamé ermite du Cross.
Voilà.
Donc ce personnage est plein de mystères et il va révéler peut-être sa vraie identité au fur et à mesure du roman.
Et on comprendra pourquoi il y a une telle fureur qui l'anime. Michel Tesser, je vous propose une pause musicale et nous reprendrons tout de suite après.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Je suis en compagnie de Michel Tesser, venu nous parler de son nouveau roman « Rouge marbre », tel est son nom, son titre, paru aux éditions du Cabardès. Alors, nous parlons donc de la population. Évidemment, ce sont des personnages fictifs, des personnages qui ont existé certainement dans tous les villages, peu ou prou, que l'on retrouve donc en... Alors, on a dit que le pouvoir royal semble bien loin. On a parlé du marbre, ce rouge des antiques aussi, ou jaspe. Et donc, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que la population ne le sait même pas.
Non, la population ne se soucie absolument pas de l'aspect esthétique de la pierre. La pierre sert
à... Et de l'aspect économique.
Absolument. La pierre, elle ne se doute même pas que cette pierre est susceptible d'apporter une amélioration dans leur vie. Donc cette pierre, jusque-là, sert à bâtir. Un point, c'est tout. D'ailleurs, les fondations de l'abbaye au Moyen-Âge, ça s'est avéré, sont constituées de ce fameux marbre incarnat, mais qui n'est ni poli ni mis en valeur, donc qui est totalement terne et qui passe inaperçu, hormis une certaine teinte rosâtre. Voilà. Donc, on ne se soucie absolument pas de la valeur de ce marbre. C'est une richesse qui, comme le dit l'abbé au début, qui dort sous leurs pieds. Et personne n'en est conscient.
Voilà, alors, donc, méconnaissance, même apathie, parce que sur le moment, ils ne réagissent pas. Et alors, il y a un franciscain italien qui va avoir un rôle à jouer, là.
Oui, alors, ce franciscain qui a des frères qui travaillent le marbre, qui sont carriers dans la région de Carrare, qui est la capitale du marbre, bien sûr, va faire le lien avec... Il va venir un petit peu en éclaireur, et il va faire le lien avec Sormano, ce fameux...
Maître sculpteur.
Maître sculpteur, comme on dit à l'époque, rencontré à Rome, qui va venir se rendre compte sur place, qui va faire des prospections avec ses hommes, et qui va révéler cette richesse donc qui dormait sous les pieds de la population du pays.
Oui. Alors, évidemment, il va y avoir... On sourit en lisant votre ouvrage, parce qu'on imagine bien ce qui se passe dans un village, même ici, dans notre région de Toulouse. Toute une équipe d'étrangers qui arrivent pour exploiter quelque chose qui leur appartient, qui appartient aux gens du village. On imagine la réaction des villageois dans un premier temps.
Alors, dans un premier temps, effectivement, c'est peut-être pas de l'hostilité franchement déclarée, mais du moins de la méfiance, de la suspicion. Et même si, effectivement, ils ne connaissaient absolument pas la valeur de cette roche, à partir du moment où on commence à s'y intéresser, ou quelqu'un venu de l'extérieur commence à s'y intéresser, on se dit, mais pourquoi, après tout, c'est à nous?
Voilà, oui,
donc
c'est ça.
Le réflexe...
Il y a des envahisseurs.
Voilà, il y a des envahisseurs, c'est le réflexe éternel d'une population
voilà,
vis-à-vis d'une nouvelle population.
Alors, on voit le travail de recherche des filons à travers la garrigue, repérer donc les filons, justement, repérer les couleurs, parce que, si j'ai bien compris, on a envie d'aller voir Michel Tesser, merci, on a envie d'aller voir les lieux, parce qu'il y a différentes couleurs. Donc, il y a ce travail, dans un premier temps, de recherche, et ils vont trouver enfin, et ce que on se rend compte qu'il y a un réel savoir-faire également, un réel savoir-faire chez ceux qui vont exploiter ces roches, à savoir des Italiens donc, hein, des Italiens. Alors, si vous permettez, je lis juste un petit extrait. Outre la forge et les cabanes, la grande carrière compte maintenant un atelier de découpe. L'abri est sommaire, mais on y débite déjà de belles plaques destinées au marché italien. Sitôt équarri, le bloc est livré au scieur. Le travail est lent. On dessine à l'équerre l'emplacement des encoches. Puis les tailleurs amorcent la coupe à part égale, comme on trace un sillon et comme on coupe le pain. La scie commence alors son patient va-et-vient, la lame s'encastre dans la rainure, écrase le sable râpeux qui en tapisse le fond. Louis, le brassier de Villerambert, est chargé de maintenir la couche humide pour lui donner plus de mordant. La tâche lui donne une fierté nouvelle. Jusque-là, son arrosoir se contentait de révéler la couleur de la veine. Cette fois, c'est la pierre elle-même qui contribue à façonner. Grain après grain, le métal broie, ronge, grignote la chair ferme mais délicate de l'incarnat. Pour la circonstance, un ancien scieur de bois a été engagé, un grand diable d'allure taciturne que certains soupçonnent d'être huguenot. Voilà, oui, un réel savoir-faire, ce qui explique la venue donc de ces Italiens, qui sont plus ou moins reçus, mais finalement, ça ouvre des horizons aux habitants de Caux.
Finalement, ils fraternisent, puisqu'il va y avoir, ils vont embaucher, ces Italiens sont effectivement le savoir-faire, mais ils sont encore peu nombreux, donc on va embaucher sur place de la main-d'œuvre, hein, certes pas vraiment qualifié, mais pour manier la pioche, le pic et la pioche, on n'a pas besoin d'une grande qualification. Donc finalement, les habitants vont y trouver leur compte, ils vont devenir carriers, du moins ils vont défricheur, ils vont défricher, ils vont couper, tailler la pierre, casser le caillou. Et puis également, il y aura d'autres professions qui vont en profiter, comme le forgeron, puisqu'il faudra retirer les outils,
oui,
fabriquer
oui.
des outils, les entretenir. Il y aura aussi l'aubergiste qui va tirer son épingle du jeu, puisque, bon, on va se réunir à l'auberge, on va aller manger, etc. Voilà, donc on voit ce développement de ce village, et finalement, une espèce de
consensus.
De consensus,
oui.
Voilà. D'autant que la langue, alors ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, la langue est finalement relativement proche par rapport au français.
Ils arrivent à se comprendre.
Ils arrivent à se comprendre.
Oui.
Ce sont deux langues latines, puisqu'à l'époque, en Languedoc, on parle le languedocien, qui est très diversifié, hein, suivant les lieux, mais aujourd'hui on dirait l'occitan, pour faire vite. Ils parlent l'occitan, et évidemment, entre Languedoil et Languedoc, il y a davantage de différences qu'entre Languedoc et italien.
Voilà. Oui, effectivement. Alors, évidemment, il y en a un qui est fort en colère, c'est l'ermite qui dit « Va des rétros, retourne d'où tu viens, étranger, ton intention n'est pas bonne, ton cœur est impur, voilà, etc. etc. Aveugle que vous êtes, il y a du mal derrière tout ça, on vous a vu, le Montsu là-haut, et puis les autres, soyez maudits. » Bon, il les injurie, évidemment. Mais en définitive, comme vous le dites si bien, finalement, ils commencent à se connaître, à se comprendre, à apprécier d'avoir un travail rémunéré. Mais à ce propos, alors là, il y a des comportements de Maquignon qui sont très drôles. Entre justement l'abbé et puis Sormano, parce qu'ils sont malins tous les deux. L'un, l'abbé veut en recevoir, évidemment, et ça se comprend, puisqu'il livre ces pierres qui leur appartiennent, et il voudrait de cet argent faire en sorte que ça serve à son village et à son église. Et puis de l'autre, Sormano, qui est connaisseur, fin connaisseur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son comportement?
Alors Sormano essaie de mettre la barre haut,
oui.
C'est-à-dire de vendre son expertise au mieux, c'est-à-dire qu'il va demander des conditions, il va demander d'avoir l'exclusivité de l'exploitation du marbre, il va demander à ce qu'on lui rembourse les frais de mise en œuvre du chantier.
Mais il est un peu gonflé, si vous me permettez, parce qu'il n'a rien payé encore.
Oui, il n'a rien payé. Mais donc il fait valoir, c'est un petit peu du chantage hein, qu'il fait au père abbé. Il lui dit si je ne suis pas là, ben, vous n'aurez rien. Sur place, personne ne sait faire, donc c'est à prendre ou à laisser. Et là, il y a une espèce de dialogue de sourds qui s'établit, mais finalement.
De sourds, mais enfin, tous les deux savent qu'ils sont en train de
Voilà, ils savent que chacun y trouvera son compte au bout du compte, on peut dire.
Alors,
justement.
En cadeau. Il fait un cadeau quand même,
oui.
Une statue de vierge Et ça aussi, ça met hors de lui l'ermite, qui va remplacer l'humble statue de bois qui se trouve dans la chapelle. Voilà. C'est une statue de marbre de Carrare, bon, somptueuse. Il va y avoir des incidents graves. Et évidemment, l'ermite va convaincre la population que c'est à cause de ces changements notoires.
Alors effectivement, à travers cette espèce d'opposition entre les deux statues, c'est-à-dire la Vierge primitive en bois, la Vierge humble, la Vierge des humbles aussi, hein, cette fameuse Madone dont parle Marie au début, auxquelles les paysans ont toujours fait confiance, hein, pour protéger les récoltes, etc. Il y a cette opposition entre cette Madone-là, qui est vraiment née sur les lieux, qui fait partie, qui est un petit peu une espèce de reste d'icône animiste, hein, elle est liée à des temps très très anciens.
Une sculpture primitive, en fait.
Hein, voilà, oui, c'est ça. On retrouve ces vierges noires, oui, un petit peu partout, hein, sur les bords de la Méditerranée, du moins sur les lieux chrétiens. Hein. Et l'autre Madone, alors là, cette Madone qui est faite sur le modèle des statues antiques, puisque les Italiens ont l'Antiquité derrière eux, donc elle est sur le modèle de la statue antique, c'est une superbe Madone en marbre blanc de Carrare.
Qui n'a rien à faire dans cette chapelle.
Elle n'est pas adaptée au lieu, et elle représente, à travers ces deux Madones, on a l'opposition de deux mondes. Un monde, le monde des humbles, le monde de la nature, de la simplicité, et de l'autre côté, le monde du décorum, le monde de tous les appétits finalement et de toutes les ambitions. On a ces deux mondes qui vont s'opposer et de façon peut-être assez dramatique à certains moments.
Alors, ce que on voit parallèlement, c'est Jean d'Alibert, pardon, est très conscient. Puisqu'à un moment donné, il dit « l'étau se resserre ». On voit, et vous en avez parlé tout à l'heure, que le pouvoir central veut petit à petit avoir un pouvoir dans toutes les régions, même les plus isolées, même les plus éloignées. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient et, assez opportunément finalement, va se poser la question de savoir « mais pourquoi nous ?» Puisque c'est notre terre, pourquoi nous n'exploitons pas ? Alors bon, là, il y a un dialogue, et c'est vrai que c'est très, presque nationaliste. Voilà. Ce que j'aime aussi dans votre ouvrage, c'est que vous mélangez des descriptions, des choses, et puis aussi des dialogues, ce qui rend l'ouvrage d'autant plus vivant, intéressant. En fait, il va y avoir cet homme qui arrive. Premier signe, mais notre abbé reste sur ses prérogatives. Et puis, il va y avoir d'autres signes aussi. Il va y avoir un incendie. Est-ce la Vierge qu'on a mis de côté et on ne sait pas où elle est, on le saura à la fin. Est-ce que ce n'est pas un signe de la colère de Dieu, peut-être ? Il y a aussi... ce pouvoir, ces Français, ils disent Français, donc ils ne se disent pas Français, pas
oui,
tout à fait,
oui,
pas
oui,
vraiment.
Tout à fait, ils ne se reconnaissent pas en tant que Français.
Voilà, envoyés par le duc de Montmorency, et puis, à un moment donné, il y a Jean d'Alibert va mourir, l'abbé, et va être remplacé par l'abbé Saint-Sernin. Et là, alors, changement de propos.
Alors, l'abbé d'Alibert avait malgré tout une certaine sincérité dans ses buts, bien que, bon, il avait à la fois de l'ambition personnelle et puis de l'ambition pour son abbaye. Il était vraiment un petit peu sur deux registres, il jouait. Là, on a affaire à un prélat, dans tous les sens du terme, un prélat qui se soucie apparemment davantage de bien temporel que de bien spirituel. Et lui, c'est le décorum qui va l'intéresser, et il va tenter de mettre, enfin de tenir la dragée encore plus haute vis-à-vis de Sormano.
Alors, moi, peut-être l'ai-je mal lu, mais en même temps, il ne veut pas que ses biens tombent aux mains des étrangers.
Oui, ça c'est toujours le même enjeu.
Oui.
Vous savez, on dit pour vivre heureux, vivons cachés. Et jusqu'à présent, tout ce coin du Languedoc s'arrangeait, les gens s'arrangeaient entre eux, du plus bas de l'échelle jusqu'en haut. Et finalement, les étrangers, disons les Français finalement, qui seront plus étrangers que les Italiens, viennent mettre un petit peu le désordre, fourrer leur nez dans des affaires qu'ils préféreraient garder secrètes, discrètes du moins, puisqu'elles risquent de rapporter gros. Et oui, elles commencent à rapporter gros.
Oui. Et ce qu'il dit, c'est que maintenant, donc, il est quand même d'une certaine manière le porte-parole du roi aussi, non ?
Oui, c'est un personnage là aussi
un peu ambigu.
Double, ambigu. Mmh. Il veut être bien avec le roi puisqu'il voit que l'avenir, malgré tout, inexorablement, va être du côté du pouvoir central, du pouvoir royal. Et en même temps, il veut garder les avantages matériels apportés par cette exploitation du marbre et donc par les Italiens. Voilà, donc il essaie de ménager la chèvre et le chou. Et c'est un petit peu difficile.
Oui.
Voilà.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Alors, autre malédiction, il va y avoir la rôdeuse, c'est-à-dire la mort qui va apparaître sous la forme d'une pandémie. Ça, avouez que ça tombe bien, là, en ce moment, nous en sommes aux pandémies. La peste qui a fait des ravages terribles dans les Pyrénées également, enfin, tout autour d'ailleurs, enfin, dans tout le pays. Donc, cette peste, vous avez en fait une description terrible, et on imagine bien comment ça devait se passer. On enfermait les gens, et en même temps, il y avait une sorte de solidarité aussi. Enfin, les gens étaient partagés entre l'esprit de solidarité et la peur.
Bien sûr. Il y avait, donc c'était la peste, c'était le grand fléau, c'était la grande peur. D'ailleurs, cette peste-là a été une des dernières très grandes pestes. C'était la peste de Marseille, de Venise, vraiment, c'est à ce moment-là, toutes les villes d'Europe ont été touchées, toutes les villes du bassin méditerranéen ont été touchées, Toulouse également, Carcassonne décimée. Voilà, donc cette peste est terrible. Les gens riches vont quitter leur maison, vont se réfugier dans leur fief un petit peu plus loin, à la campagne. Mais les pauvres, évidemment, vont rester sur place et vont... finalement, tout le monde va être touché.
Oui. Je crois que la moitié de la population, dans bien des lieux, a été exterminée.
Tout à fait. Bien que l'on ait pris des mesures qui ressemblent fort aux mesures actuelles, dans la pandémie actuelle, c'est-à-dire port de masques, port de gants, désinfection des documents, du courrier, désinfection au vinaigre, avec des plantes médicinales également. On fermait les maisons, on condamnait les maisons qui avaient été infectées, désinfection au soufre, vraiment des mesures prophylactiques importantes.
Oui, et j'ai vu que les moines se dévouaient vraiment pour la population.
Tout à fait.
Et alors ils mettaient des herbes dans des masques, des herbes, et je me demandais si ça servait vraiment à quelque chose, peut-être.
Alors, c'est hérité des médecins de la peste vénitienne, notamment, qui portaient un masque qui ressemblait à un masque d'oiseau, avec un long bec. Et pourquoi le long bec ? Parce que, tout simplement, ce bec était rempli de différentes strates. Il y avait du charbon, pour filtrer, un premier filtre de charbon, et ensuite des plantes aromatiques purifiantes comme le thym, le romarin, le genévrier, des tas d'autres, sûrement un tampon de vinaigre également. Ça devait faire office un petit peu de barrière,
malgré tout, peut-être.
Mais beaucoup de moines, et d'ailleurs frère Albin succombera à la fin à l'épidémie. Et ça, c'est un fait avéré. Oui. Frère Albin est un personnage inventé, mais c'est un frère avéré que...
dans l'abbaye.
Dans l'abbaye, deux tiers des moines sont morts.
Oui. Alors, pour terminer, Michel Tesserre, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la construction, qui est très intéressante. Alors, l'incipit, commence ainsi, le premier. Alors, il y a plusieurs parties... Et dans chaque partie, il y a des chapitres. Bon, mais chaque fois, alors dans la première page, je lis « Noir, abîme, silence, des eaux, interminable neige des exuvies fossiles, chimie obscure, lent agrégat, longtemps, feu, noyau, sombre, enfle, remue, roule, explose, bouscule, fracas. » Secousse, déflagration, soulèvement, dérive, ça pousse du côté de Féline, commencement. C'est très beau. Expliquez-nous.
Alors ça, c'est ce qui se passe dans les entrailles de la Terre. C'est-à-dire qu'il y a les deux mondes, il y a celui de la surface dont nous venons de parler, c'est-à-dire celui des humains, et puis il y a celui des profondeurs de la Terre, celui des forces telluriques, avec son mystère. Et c'est ce qui me tenait le plus à cœur, c'était l'expression de ce monde caché aux yeux des humains et qui finalement va gouverner leur destinée et va pouvoir la bouleverser à tout moment.
Tout ce travail de la nature.
Tout ce travail de la nature, puisque c'est vrai que mon roman est certes un roman où il se passe des tas de péripéties, où il y a des tas de personnages qui s'agitent à la surface, sur Terre.
Mais au final, c'est ceux qui se trouvent...
Voilà, ce qui vraiment me fascine, c'est ce qui se passe en dessous, et puis c'est la beauté aussi, la prêté de cette nature à laquelle j'ai consacré pas mal de moments, de phrases, dans cette contemplation des lieux qui m'a tellement apporté lorsque je les ai vus pour la première fois.
Alors, à la page 7, c'est-à-dire tout à fait au début de votre ouvrage, après le texte que je viens de lire, on voit en écrit « Coulevrette m'appelle, veine, sang de terre, vif argent, glisse, rampe, me faufile, pas encore de pattes, pas d'ailes, main nue sur le roc, jambes, plus tard, quand viendront les hommes, oui, perdu, oreille, bouge, vent, langue muette, courir, abri, personne me rattrape, pas vu, pas pris. » Et il y a noté, transcription d'un récit en langue des signes, pièce numéro 1, entre parenthèses, frère Albin de l'abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul de Cône, vers 1630. Alors, dans un premier temps, on ne sait pas, on ne comprend pas de quoi il s'agit. C'est petit à petit que l'on va comprendre le pourquoi de ces textes, donc traduits de la langue des signes, et que l'on retrouve tout au fil de votre ouvrage. Et également, Marie qui parle. Et Marie, vous vouliez absolument la faire parler.
Oui, c'était très important. Marie, c'est en même temps, souvent, je conçois un petit peu, où je mène mes romans un petit peu comme des films. Et c'est vrai que ce personnage, dans un film, ça aurait été la voix off, finalement. Mmh. Elle raconte.
Elle commente.
Voilà, elle commente, elle voit. On dirait que l'œil de la caméra est placé au-dessus du village, et petit à petit, la caméra va descendre vers le village, s'immerger dans la vie de cette population, avant de remonter, peut-être, mais ça c'est autre chose, à la fin. Cette voix, effectivement, cette transcription d'un texte en langue des signes, fait écho à ce que vous avez lu précédemment. Cette voix, c'est la continuité un petit peu de cette voix des entrailles de la terre, et elle va passer justement par quelqu'un qui est privé de voix, c'est-à-dire la Coulevrette.
Et qui est en même temps très en fusion, je dirais, avec la terre.
Voilà, c'est la manifestation, la voix de ces forces telluriques.
Oui, c'est l'être innocent qui vit. Et c'est un très beau personnage d'ailleurs. Voilà. Michel Tesser, un grand merci. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit du roman de Michel Tesser, le nouveau roman intitulé « Rouge marbre » et édité aux éditions du Cabardès. Et puis voilà, donc j'espère que nous aurons le plaisir de vous lire encore et encore, parce que ce n'est pas votre premier roman, loin de là, mais je suis sûre que les auditeurs auront plaisir à le lire. Je les encourage à le lire, parce que d'une part c'est notre région, c'est beau, c'est dense, il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de choses qui portent à la réflexion. En tout cas, un grand merci.
Merci.